Radio Vatican, France et Afrique.
Aimables auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de notre programme. Dans cette édition, nous accompagnerons le Saint-Père dans les derniers moments de son voyage en Slovaquie. Nous évoquerons aussi le kidnapping d'un prêtre au Nigeria, avant de parler de la célébration du centenaire de la Légion de Marie en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité sociopolitique sur le continent, nous parlerons entre autres de la Gambie, du Togo et de la Guinée. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue et bonne condition d'écoute de nos programmes émis depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Dernière journée du voyage apostolique du pape François en Slovaquie. Le pape a célébré une messe au sanctuaire national des Sastines, un haut lieu de pèlerinage pour les Slovaques qui y vénèrent Notre-Dame des Sept Douleurs, fêtée le 15 septembre. C'était un jour férié en Slovaquie, non pas en raison de la venue du pape, mais pour fêter Notre-Dame des Sept Douleurs, sainte patronne du pays depuis 1927 et vénérée à Sastines depuis 1732. François était arrivé peu après 9h juste mercredi dans cette petite ville située à environ 70 km nord de Bratislava et où se trouve la basilique des Sept Douleurs de la Vierge Marie, abritant une statue miraculeuse en forme de Pietà. Après un temps de prière avec les évêques slovaques à l'intérieur de la basilique, le Saint-Père a célébré la messe à l'extérieur du sanctuaire devant des milliers de fidèles. Son homélie était centrée sur la figure de la Vierge Marie, modèle de foi proposé aux Slovaques et à tous les chrétiens. La foi de Marie est une foi qui se met en route, a d'abord souligné le souverain pontife. Après l'annonciation, elle reste humble et vit ce don reçu comme une mission à accomplir, ce qui la met en route vers la maison de sa cousine Élisabeth. Et toute sa vie sera une marche à la suite de son fils comme première disciple jusqu'au calvaire au pied de la croix. Marie marche toujours, a fait remarquer le pape. Les détails de Adélaïde Patrignani.
De Nazareth jusqu'au Calvaire, à la suite de son fils, toute sa vie, la Sainte Vierge a marché, et comme l'a souligné François ce matin, elle invite les croyants à rester eux aussi en pèlerinage à la suite du Seigneur. Une mise en route pour surmonter la tentation d'une foi statique qui se contente de quelques rites ou de vieilles traditions. Lorsque l'Église s'arrête, elle tombe malade, a mis en garde le Saint-Père. La foi de Marie est aussi prophétique. Par elle, Dieu peut réaliser son dessein de salut, même si c'est dans la douleur. Mais on ne peut pas réduire la foi au sucre qui adoucit la vie, a rappelé le pape.
Di essere ostili al mondo, ma di essere segni di contraddizione.
Et pour être prophète, il ne s'agit pas d'être hostile au monde, mais d'être des signes de contradiction dans le monde, des chrétiens qui sachent montrer par leur vie la beauté de l'Évangile, qui préserve la vie là où règnent des logiques de mort. Enfin, la Vierge des Douleurs est un exemple de compassion, d'une foi qui ne demeure pas abstraite, a expliqué François, mais nous fait entrer dans la chair et nous rend solidaires avec ceux qui sont dans le besoin. Une foi à lui demander, a-t-il conclu, car humblement et sans clameur, elle allège la douleur du monde et irrigue de salut les sillons de l'histoire.
Mardi, en début de soirée, près de 30 000 jeunes avaient pris place dans le stade Locomotiva de Košice pour rencontrer le pape François. Le Saint-Père avait effectué un tour en papamobile sous les vivas et le drapeau aux couleurs slovaques du Saint-Siège. Un temps d'échange qui a pris comme souvent la forme d'un dialogue, le pape répondant à des questions posées par des jeunes. Retour sur cette rencontre avec Olivier Bonnel.
L'amour est plus grand que le rêve de la vie, mais ce n'est pas un rêve bon marché, a commencé François en répondant à une question sur l'amour dans le couple, invitant ainsi à ne pas banaliser cet amour. L'amour ne répond pas à la logique du jetable, il est fidélité, don, responsabilité. La vraie originalité aujourd'hui, la vraie révolution, c'est de se révolter contre la culture du provisoire, a-t-il poursuivi. Le pape a invité ces jeunes Slovaques à regarder les grandes histoires dans lesquelles se trouvent toujours deux ingrédients, l'un est l'amour, l'autre l'héroïsme. En regardant Jésus, on peut voir à la fois cet amour infini et le courage de donner la vie jusqu'au bout. Une nouvelle fois, le Saint-Père a exhorté les jeunes à rêver, rêver d'une beauté qui aille au-delà de l'apparence, au-delà des tendances de la mode. Les rêves que nous faisons nous disent la vie que nous voulons, a-t-il lancé. Pour que l'amour porte du fruit, a encore souligné le Saint-Père, n'oubliez pas les racines, prendre le temps d'écouter les histoires des grands-parents, des plus anciens. Reprenant les paroles de Petra, une jeune Slovaque évoquant la confession, François est aussi revenu sur ce lien avec la miséricorde de Dieu, donnant ce conseil aux jeunes, après chaque confession, restez quelques instants pour vous rappeler le pardon, conserver cette paix dans le cœur. François a enfin terminé en expliquant le sens de vouloir embrasser la croix. C'est un beau verbe. Quand nous sommes embrassés, nous retrouvons confiance en nous-mêmes et dans la vie. C'est avec Jésus que l'on embrasse la croix, jamais seul. Si l'on embrasse Jésus, a-t-il conclu, alors la joie renaît.
Ainsi s'achève le 34e voyage apostolique de François à Budapest et en Slovaquie. Il a regagné Rome dans l'après-midi, satisfait de ses moments de grâce et de consolation vécus au contact du peuple de Dieu. Au chapitre des nominations, le Saint-Père avait nommé mardi le père Albino Barrera, professeur de théologie morale aux États-Unis d'Amérique, membre ordinaire de l'Académie pontificale des sciences sociales. Toujours mardi, le Saint-Père avait nommé président de l'Académie pontificale romaine d'archéologie le docteur Maurizio Sanibale, conservateur du département d'archéologie de la direction des musées et des biens culturels du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. Des prières sont sollicitées pour la libération rapide et sûre d'un prêtre catholique enlevé de sa résidence paroissiale dans le diocèse de Kafanchan au Nigeria. C'est avec une grande douleur que nous vous annonçons l'enlèvement de notre prêtre, le révérend père Benson Boulous Luka, a déclaré le chancelier du diocèse de Kafanchan, le père Emmanuel Uchechukwu, dans une déclaration mardi. Le père Uchechukwu, chancelier du diocèse nigérian qui fait partie de la province ecclésiastique de Kaduna dans les centres nord du Nigeria, appelle au calme et demande une prière intense. Tout en sollicitant une prière intense pour sa libération rapide et sûre, nous souhaitons également appeler tout le monde à s'abstenir de prendre les lois en main. Les légionnaires dans le monde ont rendu grâce à Dieu pour le premier centenaire d'existence de la Légion de Marie. En Côte d'Ivoire, la célébration de ces jubilés doublés du 71e anniversaire de ce groupe de prière dans le pays a donné lieu à un grand rassemblement de ces derniers à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 septembre 2021 pour rendre grâce à Dieu pour ce long chemin parcouru et les grâces reçues. Prononçant l'homélie lors de cette messe, Mgr Jacques Asanvo Ayua, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké, les a invités à être des modèles de vertu et de foi dans notre marche à la suite du Christ en ce monde.
C'est le cœur débordant de joie, une joie immense que nous célébrons avec tous les dévots de Marie à travers le monde, le centenaire de la Légion de Marie. Nous bénissons le Seigneur d'avoir permis à ces valeureux hommes et femmes d'initier cette puissante association de prières et d'apostolat au service de l'action évangélisatrice de l'Église à laisser entendre Mgr Jacques Asanvo Ayua à l'entame de son homélie. L'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké s'est également réjoui du dynamisme de ce mouvement à travers le monde. Reconnaissant le rôle indéniable joué par la femme dans l'Église, la société et le développement des nations, le prélat dans son élan s'est insurgé contre les pires formes d'humiliation qui les sont faites. Thank you. Et puis enfin, à l'endroit de tous les dévots de Marie, massés dans cette basilique noire de monde, Mgr Jacques Asambo-Aïwa les a invités à être tous à l'école de Marie, des modèles de vertu et de foi dans notre marche à la suite du Christ en ce monde, que ce jubilé, leur a-t-il dit, consolide en nous la foi qui a animé la Vierge Marie dans sa vie tout entière consacrée à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
À 2 mois de l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle en Gambie, l'alliance entre le Parti national du peuple NPP de M. Barrow et l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction APRC de M. Jammeh en vue de l'élection du 4 décembre, a ulcéré le centre gambien pour les victimes de violations de droits de l'homme qui y voit une menace pour l'application par le gouvernement des recommandations de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation et accuse le chef de l'État d'abandonner les citoyens gambiens éplorés pour retourner dans les bras de ce tyran meurtrier et violeur et son parti terroriste dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Un incendie spectaculaire a détruit dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre de Bukavu, chef-lieu du sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, un bâtiment qui abritait notamment la station régionale de la télévision officielle congolaise. Il n'y a pas de victimes, mais les dégâts sont énormes, a déclaré Jérémy Bazimane, porte-parole du gouvernement provincial. Par ailleurs, 4 militaires congolais ont été condamnés lundi à la réclusion à perpétuité pour meurtre et 2 autres à 20 ans de prison pour viol au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mardi de sources militaires. Ces condamnations ont été prononcées par le tribunal militaire des garnisons d'Uvira qui a siégé en audience foraine à Minembwe où s'étaient déroulés les faits, a précisé le major Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée dans le sud Kivu. Le Togo a prolongé mardi de 12 mois l'état d'urgence sanitaire suite à la recrudescence de nouveaux cas de coronavirus ces dernières semaines. Le gouvernement avait demandé 6 mois de prorogation. L'Assemblée nationale a à l'unanimité approuvé la demande, mais lui a donné 12 mois pour bien mener la lutte contre la pandémie. Le contexte particulier qui dépasse le cadre de la gestion courante de l'État exige néanmoins de nous que nous puissions disposer de l'ensemble des outils permettant de prendre des décisions idoines et réagir promptement et agir efficacement pour la protection de la population, a appuyé la première ministre Victoire Tomega Dogbi. Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée ont ouvert mardi 4 jours de consultation tous azimuts pour définir le contenu d'une transition censée ramener les civils à la tête du pays à une date encore inconnue. Les participants sont ressortis des premières séances au Palais du Peuple, siège du Parlement dissous, sans aucune précision sur l'architecture de ces transitions. Mais le chef de la junte, lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, leur a dit lui-même qu'il venait avant tout pour les écouter, selon leur témoignage.
Radio Vatican, Français Afrique, Donatien Nembo.
Les forces armées loyales au maréchal Khalifa Haftar ont mené mardi une opération contre un groupe de l'opposition tchadienne dans le sud de la Libye frontalier du Tchad, selon un média proche de l'homme fort de l'Est libyen. Le président nigérien Muhammadu Buhari a présenté mardi au Parlement un projet de loi devant permettre d'emprunter plus de 4 milliards de dollars américains auprès d'investisseurs internationaux afin de financer des projets d'infrastructure et la lutte contre l'insécurité. Muhammadu Buhari demande au Parlement de prendre en considération cette nouvelle demande dans le cadre du plan d'emprunt 2018-2021 afin de réaliser des projets nationaux et régionaux. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu mardi le président du Parlement libyen Aguila Saleh et le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est de la Libye, a annoncé la présidence égyptienne. Chef de facto d'une armée qui contrôle la province orientale et une partie du sud de la Libye, M. Haftar est de plus en plus pressenti comme candidat à la présidentielle libyenne prévue le 24 décembre. La France a des interrogations sur le respect de la junte au pouvoir au Mali du calendrier électoral qui prévoit le retour des civils au pouvoir en février 2022 à la faveur d'élections présidentielles et législatives, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Il faut redire notre détermination, notre volonté partagée, y compris au niveau de la communauté internationale des Nations Unies, que ce calendrier soit respecté et qu'ensuite on rentre dans une période post-coup d'État, a insisté le chef de la diplomatie française en déplorant des signes de durcissement du régime. Le gouvernement de Djibouti a démenti mardi des rumeurs sur l'état de santé du président Ismaël Omar Guelleh, âgé de 73 ans et au pouvoir de cet état de la Corne de l'Afrique depuis 1999, affirmant qu'il prenait de repos après un surménage. Un célèbre professeur d'université opposant au gouvernement rwandais a entamé la semaine dernière une grève de la faim pour protester contre son arrestation après des accusations de viol, a déclaré mardi son avocat. Christopher Kayumba, selon la police, a été arrêté jeudi à la suite d'accusations de plusieurs femmes, dont une ancienne élève de l'école de journalisme et de communication de l'université du Rwanda à Kigali où il a enseigné. Notre programme se poursuit avec Marie-José Moando-Boisboilo qui nous présente le magazine sur les organisations internationales et la solidarité.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Notre magazine sur les organisations internationales et la solidarité concerne l'engagement de l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation et l'agriculture, FAO, a donné suite au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et a participé à la transformation des systèmes agroalimentaires. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est entrée dans une nouvelle ère avec une nouvelle structure et une nouvelle dynamique à l'approche de l'échéance fixée pour la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses objectifs de développement durable. Nous devons modifier sans attendre nos systèmes agroalimentaires et ce, de manière globale. Cette transformation exige une approche systémique et une action collective, main dans la main avec les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et de concert avec les gouvernements, le secteur privé, le monde universitaire et la société civile. Voilà ce qui est au programme du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui approche et ce à quoi la FAO veut parvenir avec tous ses partenaires grâce à son nouveau cadre stratégique 2022-2031. L'action de chacun d'entre nous a une incidence sur l'avenir de notre planète à travers nos systèmes agroalimentaires. Le sommet arrive à point nommé. Après avoir reculé pendant des décennies, le nombre de celles et ceux qui souffrent de la faim a augmenté ces 5 dernières années et atteint à présent pas moins de 811 millions de personnes. Dans le même temps, l'obésité et d'autres maladies non transmissibles ne cessent de progresser et constituent des problèmes mondiaux liés à une diversification insuffisante des régimes alimentaires sains et des modes de consommation. Nombre des pratiques agroalimentaires actuelles font aussi payer un lourd tribut à notre planète. Nos systèmes agroalimentaires ne fonctionnent pas bien. Que devons-nous faire pour les transformer? Quel est notre impact individuel sur ce processus? En tant que principale organisation internationale œuvrant dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture, la FAO prône et soutient la transformation des systèmes agroalimentaires. Le système agroalimentaire couvre le cheminement des produits alimentaires de la préparation du sol jusqu'à l'assiette tout au long des différentes étapes, à savoir ensemencement, culture, récolte, transformation, conditionnement, transport, distribution, commercialisation, achat, préparation, consommation et élimination. Il englobe des produits destinés à un usage autre qu'alimentaire, par exemple dans les domaines de la forêt, de l'élevage et de l'utilisation de matières premières et de biomasse pour la production d'agrocarburants et de fibres couvre l'ensemble des activités, des investissements et des choix réalisés et a une incidence sur les moyens d'existence de tous les acteurs qui contribuent à nous procurer ces produits agroalimentaires. Grâce à ces compétences spécialisées qui vont de la politique générale à la faisabilité, en passant par l'innovation scientifique, les terres et l'eau, l'élevage et la pêche, la biodiversité et le climat, la sécurité sanitaire des aliments et le travail normatif, les données géospatiales et les technologies numériques, la FAO agit en première ligne dans la préparation de ce grand sommet mondial et, plus important encore, elle joue un rôle de chef de file dans la mise en œuvre des mesures prises pour y donner suite conformément à son mandat. La transformation de nos systèmes agroalimentaires mondiaux dépend au bout du compte des mesures prises au niveau national et local. Les aspects culturels sont importants, il suffit de s'intéresser à la cuisine pour constater à quel point les systèmes agroalimentaires varient d'un pays à l'autre et au sein d'un même pays, environ 4,5 milliards de personnes, soit plus de la moitié d'entre nous, vivent directement de leur participation aux chaînes de production, d'approvisionnement et de valeur alimentaire. Nous consommons tous des aliments et de ce fait, nous sommes tous susceptibles d'échanger la donne.
La rubrique jeunesse, toujours avec Marie-Josée Wando-Boisboilo.
Commençons notre rubrique sur la jeunesse par le Niger. Les enfants vivant dans ce pays sont au cœur des violences terroristes, notamment dans la région de Tillaberi, dans le sud-ouest du pays. Ce sont les conclusions des rapports publiés lundi 13 septembre par l'ONG Amnesty International. Sous-alimentation, déscolarisation, recrutement, les enfants subissent de plein fouet cette crise sécuritaire. Dans la région de Tillaberi, une génération entière grandit entourée de morts et de destruction, dénonce Matt Vels, directeur adjoint d'Amnesty International pour les interventions d'urgence. Tillaberi est une région de 100 000 km² située dans l'ouest du Niger, à la frontière du Mali et du Burkina Faso. Les groupes armés ont attaqué à plusieurs reprises les écoles et les réserves alimentaires et ciblent les enfants pour les recruter, explique le responsable de l'ONG qui accuse deux organisations djihadistes, l'État islamique du Grand Sahara et le groupe Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslimin affilié à Al-Qaïda. La zone des trois frontières, Niger, Burkina Faso et Mali, est parmi les plus dangereuses du Sahel, confirme depuis Niamey le père Mauro Armanino, missionnaire de la Société des Missions Africaines. Le père Armanino cite un vieil habitant de la région des Dolbel qui dit que l'on vit dans la peur. Les gens écoutent le bruit éventuel des motos que seuls les djihadistes conduisent à volonté. Il y a quelques jours, selon son récit, poursuit le père Armanino, une centaine de motos ont traversé les villages proches des Dolbel et de Fantio, semant la terreur et forçant les agriculteurs et les éleveurs à leur payer des taxes dues. Les gens ne dorment pas la nuit et pendant la journée, ils vont au champ pas trop tôt et reviennent avant la tombée de la nuit pour ne pas être surpris par les bandits. Les garçons et les enfants peuvent être enrôlés dans les combats et les filles forcées à se marier avant l'heure. Selon la base de données sur les conflits armés cités dans le rapport d'Amnesty International, les violences contre les civils au Niger ont fait 544 morts entre le 1er janvier et le 29 juillet 2021 contre 397 en 2020. Quelques 60 enfants ont été tués du côté nigérian des trois zones frontalières, ajoute Amnesty International qui cite plusieurs témoignages d'adolescents survivants. Dans le nord-ouest du Nigeria, les autorités de l'État de Zamfara ont annoncé la libération de plus de 70 enfants qui avaient été kidnappés début septembre dans leur école de Kaya. Depuis deux semaines, l'armée nigériane est engagée dans une vaste opération militaire visant à démanteler les camps de groupes armés implantés dans la région. Ces groupes armés sont spécialisés dans le vol de bétail, les attaques de camions et surtout les kidnappings. Contre rançon, plus de 1000 enfants et adolescents ont ainsi été enlevés dans leurs établissements scolaires depuis le mois de décembre 2020. Face à la dégradation de la situation, les autorités ont finalement opté pour la méthode forte. Depuis la fin du mois d'août, une série de mesures ont été prises pour appuyer une opération des forces de sécurité nigérianes chargée de nettoyer l'état des bandits, comme on les surnomme localement. Les enfants de Guinée-Bissau, du Tchad, du Nigeria et de la République centrafricaine sont les plus susceptibles de voir leur santé et leur éducation menacées, selon une étude du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Intitulée « La crise climatique est une crise des droits de l'enfant », l'étude de l'UNICEF est la première analyse des risques du point de vue des enfants tenant compte des cyclones, des vagues de chaleur et de l'accès des enfants aux services essentiels. Cette étude évalue la situation dans 33 pays classés à risque extrêmement élevé. Il s'agit des enfants exposés à une combinaison fatale de chocs environnementaux et climatiques avec une grande vulnérabilité due au manque de services d'eau et d'assainissement, de soins de santé et d'accès à l'éducation, souligne le rapport. Pour la première fois, on dispose d'une image complète de la manière dont les enfants sont vulnérables au changement climatique, a déclaré la directrice exécutive de l'UNICEF, Henrietta Fore. Elle a affirmé que les droits des enfants sont menacés en cause l'accès à l'air pur, à l'eau potable, à la nourriture, au logement et à l'éducation, sans compter le risque d'être exploité. Le rapport comporte également l'indice de risque climatique des enfants.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Donatien Nimbo. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui.